Amen. Donc moi, je suis Daria. J'ai bientôt 35 ans dans 7 jours. 4 enfants, mariée à Simon. On a 4 enfants, donc Céleste, 14 ans, Rebecca, 13 ans, Camilla, bientôt 12 ans, et Mélissa, 10 ans et demi. On a eu les 4 enfants en 4 ans. Je vais vous en parler un peu plus. Ça fait partie de mon témoignage aussi. Comment Dieu s'est glorifié. Je suis une personne, pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'ai appris à connaître un peu quand même quelques personnes. J'aime la vie. Je suis une passionnée de la vie, je suis une passionnée de Dieu, évidemment, je suis une passionnée des gens et une passionnée de l'église locale, une passionnée. Donc on a aujourd'hui 4 églises et 6 églises en implantation et aussi à l'international. Notre cœur, à mon mari et moi et nos équipes, brûle pour l'église locale. C'est pour ça que je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Bravo aux responsables, bravo à toute l'équipe, vous faites un merveilleux travail. Et vraiment, je vous honore pour ça. Merci de m'accueillir ici aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que, et je le disais tout à l'heure aussi, je le partageais, on n'a rien sans rien. Les choses ne tombent pas du ciel comme ça, ou on ne vit pas, tu le disais aussi, c'est l'église locale ne s'implante pas tout seul comme ça, mais il y a un prix à payer aussi. Et vous savez, on a tous deux choses en commun, tous. On va tous passer par des tempêtes, ça c'est la mauvaise nouvelle. On passe tous par des tempêtes. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes les tempêtes passent. Quand on observe la météo, quand on observe ces tempêtes, des vraies tempêtes qu'on peut voir dans la vie, eh bien on voit que la tempête, elle est là, elle peut être extrêmement virulente, elle peut tout détruire sur son passage. La grêle peut tomber, peut fracasser ta voiture, ou la toiture de ta maison, ou ça peut être ravageur. Mais une chose est sûre, c'est que la tempête, elle ne reste pas éternellement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que ce ne serait pas pareil avec nos vies? On passe tous par des tempêtes de vie. Peut-être que tu as encore été épargné, je suis désolée pour toi, mais les tempêtes arrivent, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je te rassure dès le départ, et peut-être que tu es au cœur d'une tempête là, la tempête elle passe, elle n'est pas éternelle. Et ça c'est une bonne nouvelle, ça donne de l'espoir, pas vrai? Et en fait c'est ça l'histoire de notre vie avec mon mari, l'histoire de ma vie personnelle. Et je ne sais pas comment c'est pour vous, mais surtout ces 3 dernières années, depuis que ce fameux virus est arrivé, eh bien, j'ai beaucoup entendu et j'ai beaucoup dit moi-même, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi ce virus? C'est pas juste de me retrouver pendant je sais pas combien de semaines enfermée chez moi au cœur de Marseille, dans la vieille ville où il fait je sais pas combien de degrés, on n'a pas d'extérieur. Quand je vois les belles maisons ici et l'extérieur, je me dis, mais c'était une catastrophe pour nous. Et je râlais. Nous, les Français, on est les champions du monde du râlage, donc je râlais, c'est pas juste. Quelqu'un connaît cette phrase ou il n'y a que moi? Ça va, c'est bon, je ne suis pas la seule. Ça va, il y en a qui le disent, c'est pas juste. C'est pas juste, j'ai perdu mon job pendant le Covid. C'est pas juste, d'un coup, je découvre vraiment comment allait ma femme à la maison, parce que normalement, quand on travaille, on ne se voit pas trop, mais là, oulala, j'avais oublié comment elle était. Ou mon mari, c'est pas juste, je dois supporter mes gosses toute la journée. Franchement, du jour au lendemain, je devenais maîtresse à la maison. C'était pas juste. C'était très difficile pour moi. C'est pas juste, on m'a fait du mal. C'est pas juste, je dois passer par ci ou par là. C'est pas juste. Et ça, c'est une phrase, je sais pas comment c'est pour toi, comment c'est pour vous, mais que moi, personnellement, je me suis dit cette phrase, je l'ai pensée, je l'ai même dit assez régulièrement dans ma vie. Et quand j'avais 9 ans, et que je sortais de l'école à 9h, à 16h20, normal, et je voulais juste rentrer chez moi, et que tout d'un coup, il y a un groupe de personnes qui m'attend au détour d'une ruelle et qui m'encercle, qui me piège et où je me fais abuser sexuellement à l'âge de 9 ans. Je me suis dit, c'est pas juste. Quand un peu plus tard, ma première fille Céleste, j'avais 20 ans, tout d'un coup les médecins me disent, juste avec un contrôle de routine à l'hôpital, ils me disent, on vous emmène au bloc maintenant, césarienne en urgence, on est en train de vous perdre et on est en train de perdre l'enfant. Césarienne en urgence, ma petite 1 kilo, entre la vie et la mort. Je me suis dit, c'est pas juste. Quand Rebecca, ma deuxième fille, à 5 mois, fait la mort subite du nourrisson, que je la tiens dans mes bras, qu'elle est toute bleue, violette, qu'elle ne respire plus, que je suis seule avec elle. Mon mari est en formation pastorale, il est loin de moi. Je suis paniquée, j'ai 21 ans. Je sais pas quoi faire. Je la tiens contre moi, toute bleue, qui respire plus. Je me dis, c'est pas juste. Quand ma quatrième fille, Camilla, se fait enlever devant mes yeux au Vieux-Port pendant un moment d'évangélisation, des kidnappeurs viennent et la prennent devant mes yeux. Je suis paralysée, je ne sais pas quoi faire. Je me dis, c'est pas juste. Quand ma quatrième fille, Mélissa, je vais à l'hôpital pour un contrôle de routine à 6 mois de grossesse. Les médecins me disent, on vous emmène au bloc, césarienne en urgence, vous êtes en train de mourir. On doit prendre votre enfant et on ne sait pas si elle va survivre. Je me suis dit, c'est pas juste. Elle est née avec 990 grammes, ils ont dû l'intuber. Elle est restée 3 mois en réanimation à l'hôpital. Je me suis dit, c'est pas juste. Et là, vous dites peut-être que j'ai toutes les raisons du monde de me dire, c'est pas juste. Quand plus tard, on m'a découvert une tumeur et une embolie pulmonaire, 1 an après avoir eu ma dernière fille, je me suis dit, c'est pas juste. Et quand un soir, j'étais devant ma fenêtre parce que trop de souffrance, parce que j'en pouvais plus, où j'ai dit au Seigneur, mais en fait, je peux plus. J'aime mon mari, j'aime ma famille, je t'aime Dieu, mais je peux plus de cette souffrance. Je voulais juste me jeter par la fenêtre. Je me suis dit, c'est pas juste. Et juste après, on me découvre une maladie incurable. Et on me dit, à vie, je dois prendre un traitement. J'ai 26 ans. Je me dis, c'est pas juste. Humainement parlant, j'aurais toutes les raisons du monde de crier haut et fort, c'est pas juste. Et je sais pas ce que toi, tu as vécu dans ta vie, quelles sont tes souffrances, ce par quoi toi, tu es passé. Mais humainement parlant, parfois on pense avoir la justification de dire haut et fort, c'est pas juste. Parce que les souffrances sont terribles. Parce que la vie, parfois, ici sur Terre, peut être terrible. Et tu te dis, c'est pas juste. Mais tout ça, les amis, c'est sans compter l'intervention divine de Dieu dans chacune de ces situations. Chacune de ces situations que je viens de vous énoncer, Dieu est venu me rencontrer. Sinon, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Dieu le Père est venu me rencontrer dans chacune des situations de ma vie, chacun des drames de ma vie. Il est venu, il a pris la situation, il a changé le mal en bien. Quand j'avais 9 ans, je ne sais plus comment, j'ai eu un trou noir, j'ai réussi à m'enfuir. J'avais les larmes, je pleurais, j'étais choquée de ce qui venait d'arriver. J'arrive chez mes parents, je raconte tout à mes parents parce qu'on avait une règle d'or. Mes parents sont pasteurs, missionnaires, on avait une règle d'or, c'est de tout se raconter dans la famille. On avait été déjà malmenés dans le quartier de Marseille parce qu'on est allemand et que ce quartier avait été détruit par les Allemands dans la Deuxième Guerre mondiale. On ne nous aimait pas. On nous avait brûlé des voitures, cambriolé 15 fois. Ils ne voulaient pas des chrétiens. Il n'y avait pas encore d'église dans le quartier du Panier à Marseille. Et on est là et qu'est-ce qui se passe? Ce jour-là, c'était un pas de trop pour mes parents. Une violence de trop grave. Ils avaient dit à Dieu, « Dieu, tu peux tout faire. Tu es là avec nous, on peut tout supporter, on peut supporter qu'on nous brûle les voitures, on peut supporter qu'on nous cambriole, 15 fois en 7 ans on nous a cambriolé, on peut supporter qu'on nous agresse, mais qu'on ne touche pas à nos enfants, qu'on ne touche pas à nos enfants. » Et là j'arrive, je raconte à mes parents ce qui vient de m'arriver. Mes parents sont sous choc, ils pleurent, mon père qui empoigne le mur et qui sont en colère et ils pleurent et ils ne comprennent pas. Mais ils ont une chose, après les émotions, il y a une chose qu'ils ont fait qui m'a sauvée. Ils ont prié pour moi. Quand ils ont prié pour moi, je tremble de tout mon corps, je tombe par terre, comme si je tombais dans des nuages. Et quand je suis au sol, j'ai une rencontre avec Dieu. Je vois une main dans la mienne, c'est la main de Jésus. Jésus m'amène me promener avec lui, et là, il me montre ma vie. Je ne rentre pas trop dans les détails. Il me montre ma vie, une vie extraordinaire, une vie magnifique. Et ensuite, à la fin de cette promenade, Jésus se met à ma hauteur, il se met à genoux. Il me regarde dans les yeux et il me dit, « Daria, est-ce que cette vie te plaît ?» Et je lui dis, mais Jésus, c'est une vie de rêve, je veux cette vie. Et du haut de mes 9 ans, Jésus me regarde et me dit, Daria, si tu veux cette vie, alors à partir d'aujourd'hui, consacre-moi toute ta vie. Et je suis là, du haut de mes 9 ans, je fais, ok Jésus, je te consacre toute ma vie. Je me réveille de ce moment, une demi-heure après mon abus. Je regarde mon papa et ma maman, je dis, papa, maman, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. À 18 ans, je me marierai avec l'homme que j'aurai rencontré dans l'école biblique. Un jour, on reprendra l'œuvre que vous avez commencée. Mes parents, ils étaient là, ils ne comprenaient pas. J'avais le sourire, j'avais une lumière sur moi. J'ai écrit un livre sur ça et j'ai écrit aussi un passage sur ce que j'ai vécu. Et j'ai demandé, quand j'écrivais le livre, j'ai demandé à mes parents, dans l'exactitude, comment c'était pour vous. Ils m'ont dit, Daria, il y avait une lumière sur ton visage. Ce n'était pas normal, c'était divin, ça ne pouvait être que Dieu. Dieu a tenu ses promesses. Je suis allée à 16 ans à l'école biblique. J'ai rencontré mon mari là-bas. On s'est mariés à 18 ans et aujourd'hui, on a repris l'œuvre que mes parents ont commencée. Dieu a tenu ses promesses. Dieu m'a rencontré dans le pire drame de ma vie. Il a pris le mal. Il a pris ce que l'ennemi a essayé de détruire en moi. Il l'a pris et il l'a transformé en un appel à la consécration. Voilà ce que notre Dieu est capable de faire. Il peut prendre le pire de ta vie, la pire de tes souffrances. Il peut la prendre et il peut la changer en un appel à la consécration. Et il peut la changer en quelque chose de merveilleux. alors que ma fille, Rebecca, ne respirait plus. Dieu a utilisé mes voisins qui sont venus, je ne savais plus quoi faire. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a le type de personne qui, quand elle panique, elle sait exactement quoi faire, comment faire. Vous savez, la Wonder Woman, alors moi, ce n'est pas du tout moi. Quoi. Moi, quand je panique, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment je m'appelle, je ne sais plus marcher. Je ne sais plus quoi faire. Et je savais que ma fille était en train de mourir et je devais appeler les pompiers, mais je ne savais même pas où était mon téléphone et il était devant moi. Je ne l'ai pas vu. Et même si j'avais trouvé mon téléphone, je n'aurais même pas su quel numéro taper. Impossible. J'étais dans une panique, dans une transe de panique. Alors Dieu a appelé mes voisins. Ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Je criais, je hurlais, à l'aide, ils sont venus, ils ont appelé, il y a 3 camions de réanimation de pompiers qui sont arrivés, et ils l'ont réanimé à temps. Et là, les pompiers me disent, vous savez, madame, votre fille, elle fait partie des 1% qui survit sans séquelles. Elle a fait la mort subite du nourrisson. Et la seconde où vous l'avez regardée, c'est ce qui lui a sauvé la vie. Le fait que vos voisins nous ont appelés, ça lui a sauvé la vie. Dieu est intervenu dans chaque situation de ma vie. Il a sauvé, il a pris le mal, il a changé en bien. Ma fille Camilla qui a failli se faire kidnapper devant mes yeux. Je suis là, je suis paralysée et j'entends une voix de Dieu me dire « Si tu ne cours pas maintenant, tu ne reverras plus jamais ta fille. » Je suis là et je me dis « Mais Seigneur, tu me connais, tu m'as créé. Comment on marche ? Je ne sais plus. Tu me demandes de courir, mais je ne sais même plus comment marcher. Je suis paralysée, j'ai peur. » Je ne sais pas quoi faire, je vois ma fille qui me cherche du regard, elle a 2 ans et demi, magnifique Camilla, elle me regarde avec ses grands yeux bleus, elle me cherche et je la vois partir avec ce couple qui me l'a prise. Et tout d'un coup, je fais « Seigneur, aide-moi ». Et je sens une énergie me venir du ciel, me traverser la tête jusqu'aux pieds. Et d'un coup, je me mets à courir comme j'ai encore jamais couru de ma vie. Et j'arrive à la rattraper. Et je sauve ma fille, je la prends dans mes bras. Et je ne l'ai plus quittée. Je lui ai même fait mal quand je l'ai prise, je me souviens. Et ce couple qui me dit, vous savez, il y a beaucoup de kidnapping en ce moment, vous devriez faire attention, et ils partent en courant. Impossible de les rattraper, impossible de les dénoncer. Tout était dans la seconde, et j'étais sans voix. Mais à ce moment-là, j'ai compris que Dieu parle dans la seconde. À ce moment-là, j'ai compris qu'écouter le Saint-Esprit, c'est pas juste dans l'immensité, c'est pas juste dans la grandeur, mais c'est aussi dans le petit, dans l'infiniment petit. C'est aussi dans la seconde que le Saint-Esprit nous parle. Ces choses de ma vie que j'ai vécues, m'ont aussi beaucoup m'ont traumatisé parce que je me posais la question, mais pourquoi Seigneur ? Pourquoi mes filles sont sauvées ? In extremis peut-être, mais pourquoi elles sont sauvées ? Pourquoi tant d'enfants se font kidnapper et ne sont pas sauvés ? Et vous savez quoi ? J'ai pas la réponse à cette question. Je sais pas pourquoi. Mais une chose est sûre, et ça je l'ai appris dans ma vie, c'est que Dieu est ce Dieu qui peut venir dans le drame et dans la situation la plus difficile de ta vie. Il peut venir te prendre par la main, te sortir de là. Il est celui qui calme les tempêtes. Ensuite, Céleste et Mélissa qui sont nées bien trop tôt, Dieu a utilisé les infirmières, les médecins, nos hôpitaux pour sauver mes filles. Elles ont aujourd'hui, donc c'est la première, 14 ans Céleste et 10 ans Mélissa, elles sont en pleine forme, elles n'ont aucune séquelle. Ça a été un moment difficile, ça a été la vallée de l'ombre de la mort pour nous. Ça a été ultra difficile et j'en pouvais plus. Mais Dieu a utilisé le corps médical, et je suis extrêmement reconnaissante que Dieu guérit quand il veut de manière instantanée et miraculeuse, mais Dieu guérit aussi et utilise le corps médical pour venir nous guérir. Gloire à Dieu. Mes filles aujourd'hui vont bien. Je vais aller rapidement, mais Dieu, il m'a guérie de la tumeur que j'avais, de l'embolie pulmonaire. Je suis une miraculée devant vous aujourd'hui. Les médecins, quand j'avais 25 ans, ils m'ont dit, Madame Réchor, vous avez une embolie pulmonaire sévère, le côté droit de votre cœur est en train de lâcher. Vous devez faire vos adieux à votre mari. J'avais 25 ans. J'étais à l'hôpital, mes enfants étaient tous à Marseille, j'étais en Allemagne en voyage missionnaire. Et je suis là, il me reste 10 minutes à vivre. Les médecins me disent, c'est fini pour vous. Le temps que mon mari va annoncer ça à mes parents dans le couloir, les médecins arrivent et me disent, on a découvert une tumeur dans votre ovaire. Si jamais vous survivez à l'embolie pulmonaire, vous devez vous faire opérer de ce probable cancer. J'étais là, je regardais le plafond. Et je dis, Seigneur, prends-moi, c'est la fin. Je suis prête, c'est bon. Et là, j'entends une voix me dire, tu vas vivre. J'ai les médecins devant moi qui me regardent. Je commence à sourire, ils me prennent pour une folle. Je commence à sourire et je dis, oh, c'est dingue. Et là, je regarde, Madame Richard, vous avez compris, vous avez une tumeur. Vous comprenez, est-ce que vous êtes consciente de ça ? Ils me prenaient vraiment pour une dingue. Ils pensaient que j'avais certainement pété les plombs. Et là, je les regarde, je fais, non. Je leur dis, je vais vivre. Bah, c'est bien votre optimisme, mais bon, on n'est pas trop optimiste de notre côté. Et moi, j'ai là, non, j'ai entendu de la part de mon Dieu que je vais vivre. Alors, je vais vivre. Et ils étaient un peu sceptiques. Ils étaient là, ils se disaient, bah, allez, c'est mignon, quoi. C'est mignon, bon, bah, allez, on va l'encourager dans son optimisme. Mais voilà, on sait que c'est la fin pour elle. J'ai survécu. C'était long, c'était difficile. Je suis restée des semaines et des semaines à l'hôpital, loin de mes enfants. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert. Je ne nie pas la souffrance. Mais par contre, Dieu est venu, il m'a sauvée, il m'a guérie. Et aujourd'hui, je suis devant vous. Quand il y a eu la maladie incurable, juste après, je suis arrivée à Marseille. Et là, les médecins me disent, voilà, on sait pourquoi vous avez vécu tout ça depuis 5 ans. Voilà, la médecine interne. Il y a un médecin qui rentre, il y a marqué chef de service de la médecine interne. Je dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Madame Richard, asseyez-vous. C'était juste avant que je me fasse opérer de la tumeur. Il me dit, écoutez, on a découvert quelque chose. On a découvert une maladie incurable. Et je me mets à pleurer et je m'assois sur mon lit. C'était après 6 années de souffrance. Et je dis au Seigneur, mais c'est pas possible. C'est un film, ma vie. C'est un film, ça s'arrête jamais, en fait. Genre, je suis quoi? Je suis un cobaye? Je suis une torturée? Qu'est-ce que c'est, en fait? Comment ça se passe? Je dis, Seigneur, mais reprends-moi, quoi. C'est bon, c'est fini. Je suis prête, en plus. Moi, j'adore le ciel et tout. Je veux y aller, c'est bon. Je dis, mais pourquoi? Et je pleure. Et le médecin, il m'explique ce que ça veut dire, qu'il y aura un traitement à vie. J'ai 26 ans. 26 ans, les amis. Et là, il y a le médecin qui m'explique que si je ne prends pas le traitement, je peux devenir aveugle à tout moment, je peux avoir une crise cardiaque à tout moment, une thrombose, une embolie pulmonaire, des phlébites, et en fait, mon sang est trop épais. Et là, le médecin me dit, voilà, c'est un traitement d'anticoagulant qui sera assez lourd, avec des piqûres tous les jours, etc. Mais c'est comme ça, c'est juste comme ça que vous allez pouvoir survivre. Et je pleure, et le médecin part, et j'appelle mon mari. Je suis en pleurs, je suis dépitée, franchement, j'en ai marre. À ce moment-là, j'en ai marre et je me dis, c'est fini pour moi, j'en ai trop marre. J'ai plus la force, en fait. Vous connaissez ces moments où vous êtes sur le point de non-retour, vous avez plus la force de vous battre. Et en fait, j'ai capitulé devant Dieu. Je fais, Dieu, j'ai plus la force, en fait. J'en ai marre, là. J'en ai juste marre. Et là, j'appelle mon papa et il me dit, Daria, regarde ton bras. Parce que je vous explique. Quand je suis née et que la première fois que mon père m'a tenue dans ses bras, le Saint-Esprit lui a montré, gravé sur mon front, rien n'est impossible à Dieu. Et à ce moment-là, Dieu lui a dit que ma vie ne serait pas facile. Alors il lui a dit, Dieu à mon père, il lui a dit, raconte, dis à ta fille tous les jours de sa vie que pour moi rien n'est impossible. Alors mon père, toute mon enfance, il me disait, Daria, n'oublie pas, pour Dieu rien n'est impossible. Et il me saoulait mon père avec ça. Il me le disait tous les jours et tous les jours. Je disais, papa, c'est bon, j'ai compris, pour Dieu rien n'est impossible. Et à ce moment-là, quand j'ai eu l'embolie pulmonaire, j'ai fait à Dieu, Dieu, si je survis à ça, j'irai me faire tatouer rien n'est impossible à Dieu. Pas sur le front, mais sur le bras. Et quand j'étais dans cette chambre d'hôpital et qu'on m'annonce que j'ai une maladie incurable, mon père au téléphone me dit, Daria, regarde ton bras. Je regarde mon bras, rien n'est impossible à Dieu. Il me dit, c'est le moment pour toi d'être un miracle. C'est le moment pour toi d'être un miracle vivant entre les mains de Dieu. Comment être un miracle entre les mains de Dieu si tu n'as pas une maladie incurable, inguérissable pour les êtres humains? Et là, la révélation dans la chambre d'hôpital, je me mets à rire et à sourire. Je me dis, papa, t'as raison, mais c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir cette maladie inguérissable, juste pour que Dieu puisse se glorifier à travers ma vie. Mais c'est extraordinaire. Et tout d'un coup, je comprends le plan. Je me dis, oh, c'est trop bien. Et là, je suis ready, je suis prête. Je suis OK, Seigneur, vas-y, fais le miracle maintenant. J'attends 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. J'ai le traitement lourd. Je suis bleue sur mon corps parce que je dois me piquer avec des seringues tous les jours. J'attends 1 mois, 2 mois, 3 mois. Je suis fatiguée, mon corps change. Je me dégoûte personnellement devant le miroir. J'arrive plus à me regarder en face. Et c'est lourd et je pleure et je demande la prière aux anciens, l'huile d'onction, au ministère. Je fais toutes les conférences. Je prie moi-même pour moi-même. Je demande à tout le monde de prier pour moi. J'ai la foi pour 10 personnes. Franchement, tout était normal. Tout était en règle avec la Bible. Je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Je suis là. Je crois que tu es un Dieu de miracle. Je crois au miracle. Je prie, je me laisse prier pour moi. Je fais tout dans les règles. Comment ça se fait là? Il est où le miracle? 1 an après, 1 an, 1 an où j'ai dû tenir ferme, 1 an où j'ai dû me battre, où j'étais bleue sur mon corps, j'arrive à l'hôpital de la médecine interne, dans le bureau du chef de service, docteur Véro, je me souviens, avec mon mari, chaque mois on y allait pour mes prises de sang, pour vérifier l'évolution de la maladie. Je suis là dans son bureau, il regarde les résultats, il me regarde, il les regarde, il me regarde, ça a duré je crois 5 minutes. Et moi, je pensais qu'il y avait encore un truc, je me disais, c'est pas possible, encore, allez, dites-moi, c'est quoi la mauvaise nouvelle? Et là, on savait pas avec mon mari comment on doit se sentir, bien ou pas bien. Et là, je fais, bon, bah, qu'est-ce qui se passe, docteur? Il me dit, en 40 ans de service, de carrière dans ce service, il était déjà presque à la retraite, il me dit, j'ai jamais vu ça. Il me dit, j'ai jamais vu ça. Je ne retrouve plus la maladie dans votre sang. Et là, il me dit, c'est pas normal? Et moi, j'étais là, je fais, si, c'est normal, c'est un miracle. Il me dit, alors attention, on va faire doucement avec ce mot. Et je fais, non, mais docteur Véro, je vous assure et tout, j'ai prié pour ça, croyez-moi, j'ai vraiment prié pour ça. Il me dit, attendez, on va faire des vérifications. Pendant 3 mois, on a fait des vérifications. Et effectivement, la maladie a disparu. Et je suis un miracle vivant devant vous. Gloire à Dieu. Vous savez, dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, ce verset qui dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Je n'ai pas toujours compris pourquoi je vivais ce que je vivais. Dans le moment, dans le creux comme ça, dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je pleurais tous les jours, quand je me lamentais tous les jours, je ne comprenais pas pourquoi. Je ne suis pas meilleure que vous, vous savez. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis là devant vous, rayonnante et souriante, que j'ai toujours été comme ça. J'ai pleuré, je me suis plaint comme tout le monde, comme chacun d'entre nous. Parce que qui aime souffrir? Qui comprend pourquoi on souffre? Personnellement, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Mais une chose que j'ai apprise pendant ces temps, c'est que Dieu voit au-dessus de nous. Et que si moi je fais confiance à ce Dieu qui voit bien plus loin que nous, qui comprend les choses bien plus que ce que nous puissions comprendre. Moi, je lui fais confiance. Lui qui sait tout, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, il sait tout. Alors je suis rassurée. Vous savez, Dieu voit plus haut que nous. Il voyait Abraham, père d'une multitude, alors qu'il n'avait pas encore d'enfant. Il voyait la colombe avec cette branche d'olivier, et ça en plein déluge. Il voyait la pierre lancée par David toucher le front de Goliath, alors que David allait encore paître les brebis. Il voyait par exemple le peuple des Hébreux entrer dans le pays promis, alors que 10 des 12 espions ils avaient peur des géants. Il voyait la gloire qui allait venir après la mort de Jésus à la croix, alors que Adam et Ève mordaient dans le fruit défendu. Il te voit aujourd'hui dans sa gloire. Il te voit aujourd'hui guéri, restauré. Là où toi, aujourd'hui, tu passes encore au milieu de ta tempête, là où tu comprends encore rien. Dieu est ce Dieu qui voit l'immensité, il voit l'après, il voit la gloire qui va venir dans ta vie, tout en comprenant ce que tu vis maintenant. C'est ça, Dieu. C'est ça, l'immensité de Dieu. C'est ça, l'amour du Père, le cœur du Père. Il voit l'immensité, il voit l'après, il voit la gloire, mais il te comprend aussi dans ton maintenant et dans ta souffrance. Il te voit. Mais ce n'est pas juste qu'il te voit, il voit plus loin. Et je ne sais pas, peut-être que quelques histoires que je vous ai racontées font écho à ta vie. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu as vécu, dans ce panel de souffrances, il y a peut-être des trucs que toi-même tu as vécu, ou peut-être que tu as vécu complètement d'autres souffrances. J'ai parlé avec quelques personnes ce matin. Des souffrances terribles, des deuils, des pertes, des choses inexplicables qu'on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Des abus peut-être. Et vous savez, il y a une chose que j'ai appris pendant toutes ces années. C'est que je n'ai pas des réponses au pourquoi. Mais je me pose la question de comment je peux le traverser et avec qui. Et c'est ça qui fera toute la différence. Je n'ai pas de réponse au pourquoi. Peut-être qu'au ciel, un jour, j'aurai une réponse. Je ne sais pas. Mais j'ai fait le deuil du pourquoi. Maintenant, c'est le comment. Comment je traverse ma vie? Comment je décide? Avec qui je décide de traverser ma vie? Est-ce que je décide de traverser ma vie abattue par les souffrances de la vie? Ou est-ce que je me raccroche à celui qui voit plus haut que moi? À ce Dieu éternel, tout-puissant, qui sait bien plus que moi ce qui va arriver plus tard. Honnêtement, qui d'entre nous sait ce qui se passe demain? On en parlait avec Estelle et Yannick. Qui sait ce qui se passe demain? Moi, personnellement, avec toutes les fois où j'ai failli mourir, ou que j'ai failli perdre mes enfants, aujourd'hui, clairement, je vis au jour le jour. Je ne sais pas ce qui se passe demain. Je ne sais pas si je meurs demain. Je ne sais pas si mes enfants mourront demain et iront voir le Seigneur. Je ne sais pas. C'est pour ça que chaque jour compte. C'est pour ça que chaque jour est important pour dire « Ok, je veux vivre cette journée pour toi, Seigneur. Je veux utiliser le temps que tu me donnes. » Est-ce que ce n'est pas la chose la plus précieuse que l'on a, le temps? Le temps que tu me donnes, la journée que tu me donnes, les heures que tu me donnes, je veux les utiliser pour te glorifier, mon Dieu. Je veux les utiliser pour propager ta bonne nouvelle, l'espoir dans la souffrance, parce que la tempête passe, l'espoir dans la souffrance et dans les tempêtes, parce que Dieu est plus haut et plus fort, il voit plus loin, qu'il soit glorifié. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il nous aime. Tout est poussé par l'amour. Tout est poussé par l'amour. Si aujourd'hui tu es là, c'est parce que Dieu t'aime. Si tu entends ce message, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu veut toucher quelque chose dans ta vie. Et s'il vous plaît, on n'est pas là pour se comparer dans les souffrances. Souvent j'entends quand je témoigne, « Ah non, mais toi, c'est bon, j'ai plus à me plaindre. » Non, c'est pas ça la question. On n'est pas là pour se comparer, en fait. Chacun vit des souffrances, et une souffrance reste une souffrance, vous savez. Les souffrances ne sont pas comparables. Quelqu'un qui souffre parce qu'il a perdu son chat, comme quelqu'un qui souffre parce qu'il a perdu un être cher, un être vivant cher, ben en fait, une souffrance reste une souffrance. Et Dieu veut te rencontrer dans ta souffrance, peu importe la raison de la souffrance. Et vous savez, quand j'étais face à ma fenêtre et que j'étais tentée d'en finir parce que j'en pouvais plus, le Saint-Esprit m'a parlé. Là encore, il est venu me prendre dans un moment terrible de ma vie où je voulais en finir et je voulais capituler, lâcher prise. Et il m'a rappelé, 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Dieu est ce Dieu qui nous donne les capacités d'en sortir. Dieu est ce Dieu qui nous donne la capacité, les forces de surmonter tout ce que l'on vit. Tout ce que tu vis, tu peux le vivre. Avec Dieu, tu peux le surmonter. Peut-être que ça fait écho en toi, et ça fait écho peut-être à quelque chose dans ta vie, mais ça fait aussi écho à une histoire dans la Bible avec les disciples dans la barque. Vous connaissez cette histoire ? Je vais juste vous la raconter. C'est écrit en Marc 4, 35, 40, je ne vais pas le lire, je vais vous la raconter rapidement. Jésus est dans la barque avec les disciples et ils veulent aller de l'autre côté. Le but, c'est l'autre rive. Le but, c'est le prochain côté. Donc il y a un objectif en fait. Et Jésus le dit à ses disciples, on va aller de l'autre côté. Donc ils le savent. Mais en plein milieu de cette eau, de cette mer, en pleine nuit, survient une tempête. Une tempête tellement grave que les disciples, ils ont peur de mourir. Ils sont là, vous imaginez une tempête avec des vagues de fou, avec le vent, et nani, et nana, et ils sont là, et ça bouscule, et ils ont peur de mourir, est marqué dans la Bible. Et là, ils se souviennent que Jésus est dans la barque. Qu'est-ce qu'il fait Jésus ? Il est en train de dormir. Il doit être vachement fatigué, parce que là, il dort en pleine tempête, et il dort là. Et les disciples se souviennent que Jésus est là. Et c'est la première chose que j'aimerais vous donner ce matin. Tu peux passer par des tempêtes dans ta vie. Et depuis le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, Jésus est dans ta barque. Et peut-être que tu es en pleine tempête, ou peut-être que tu passeras par des tempêtes. Et la première chose que je veux vous dire, c'est souviens-toi que Jésus est dans ta vie. Souviens-toi que Jésus est dans ta vie. Ce que j'ai remarqué dans ma vie, dans mes tempêtes, c'est que parfois on passe par ces tempêtes pour se souvenir que Jésus est bien là. Parce que dans notre vie où tout va à 200 à l'heure, dans notre vie où tout est rempli de la vie de famille, de la vie d'église, de la vie du travail, des soucis d'argent, des soucis de relations. On est là et on oublie. On oublie en fait que Jésus est là, on oublie cette relation et cette relation devient juste un dimanche matin, je vais à l'église. Ça devient juste, je prie avant de manger et encore. D'un coup, Jésus devient juste un symbole dans une vie. Oui, je suis évangélique protestant, oui, je vais à l'église connect. Mais en réalité, à quoi ressemble ta relation avec Jésus ? Parce que qu'est-ce qu'ont fait les disciples ? Une fois qu'ils se sont souvenus que Jésus est là. Première chose, souviens-toi que Jésus est dans ta vie, en fait. La deuxième, ce qu'ont fait les disciples, ils sont allés voir Jésus et ils l'ont réveillé. Jésus, réveille-toi, on meurt. On est en train de mourir. Vous savez ce qui m'a sauvé ma vie dans cette tempête de ma vie ? 6 années de souffrance. J'ai crié à Jésus. J'ai crié de toutes mes tripes. J'ai crié de tout mon cœur. J'étais à genoux. J'ai fait, c'est Jésus. Mais Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je ne vais pas m'en sortir toute seule. Jésus, il attend qu'une chose, c'est que tu cries à lui. On parlait des barrières au tout début. Il attend qu'une chose, c'est que ces barrières, elles dégagent en fait. Et que tu puisses enfin crier à Jésus. Crie à Jésus. Jésus, réveille-toi dans ma vie. Jésus, ma relation avec toi, je veux la réveiller. Et que les tempêtes que je passe, et que les souffrances par lesquelles je passe, et bien que tu sois glorifié parce qu'elle me ramène à réveiller ma relation avec toi. Il est temps pour toi aujourd'hui de réveiller ta relation avec Jésus. Pas simplement de vivre le chrétien superficiel ou juste de venir à l'église le dimanche ou juste de prier de temps en temps et lire ta Bible de manière religieuse. S'il ne s'agit pas de ça, il s'agit de relation. Il s'agit de vivre une relation et de crier à Jésus et de réveiller cette relation à Jésus. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est le seul qui peut faire taire les tempêtes. Il est le seul qui peut faire taire les tempêtes de ta vie. Il est le seul qui a l'autorité et le pouvoir par son sang de faire taire les tempêtes de ta vie. Il est le seul. Ni ton conjoint, ni ton pasteur, ni ton ami, ni la personne que tu admires le plus dans le monde ne pourra faire taire les tempêtes de ta vie. Le seul qui a l'autorité de le faire, c'est Jésus. Le seul qui a l'autorité, le pouvoir, parce qu'il est mort à la croix et ressuscité. Et il a vaincu la mort, il a vaincu la maladie, il a vaincu chaque souffrance, il a vaincu la dépression. Il a vaincu la mort et la maladie, il a vaincu le péché. Il est victorieux. Et ce Jésus, il est dans ta barque. Qui de vous a déjà donné sa vie à Jésus? S'il vous plaît, levez la main. Je veux voir vos mains. Regardez autour de vous. Vous tous, Jésus est dans votre barque. Jésus-Christ, notre Sauveur qui a vaincu la mort, la maladie et le péché, il est dans votre barque. Il est temps de vous souvenir qu'il est là. Il est temps d'aller le réveiller. Pas lui, vous savez, Jésus ne dort jamais, Dieu ne dort jamais. Mais réveillez votre relation à lui. Réveillez votre relation à lui. Parce que c'est ce qui va vous faire tenir vivant. Et surtout, qu'est-ce que Jésus a dit à la fin? Je vais juste vous lire ça. Dans Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Quand Jésus s'est réveillé et se lève dans cette barque avec les disciples, il menace le vent et la mer. Et aujourd'hui, Jésus dans ta vie, il souhaite se lever et il souhaite menacer la tempête de ta vie. Il souhaite menacer et dire « Silence et tais-toi » pour que le calme revienne. Pour que le calme revienne. Parce que c'est comme ça que notre Dieu est. Aucune tempête n'est trop brutale, trop violente, trop forte. Dieu souhaite transformer chaque souffrance en une couronne belle et légère. Je vais finir maintenant sur ça. J'avais 28 ans et j'étais cassée de la vie. J'étais brisée, complètement brisée. Évidemment, Dieu était avec moi tous les jours, mais j'étais fatiguée, très fatiguée. J'arrivais plus à marcher, un pas devant l'autre. J'étais à moitié dépressive, j'étais fatiguée de ma vie, traumatisée de ce que je venais de vivre. Même si j'aimais Dieu et j'aime ma famille, mais j'étais fatiguée. Et là, je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça. Je ne peux pas vivre comme ça toute ma vie. Dieu, tu dois me toucher, tu dois me libérer là, tu dois faire quelque chose. Et je suis allée voir une thérapeute pasteur. J'ai passé une semaine chez elle. On a passé un temps, on a fait un travail sur toutes les souffrances que j'ai vécues. Et on a prié à chaque fois. Et à la fin de cette semaine, il y a un dernier temps de prière. Et là, j'ai une rencontre avec Jésus encore une fois, comme quand j'avais 9 ans. Et je vois Jésus venir. Et je revis chaque souffrance de ma vie. De l'abus jusqu'à l'âge adulte. Chaque souffrance de ma vie, chaque traumatisme que j'ai vécu. Je le revis devant mes yeux. Et je vois Jésus venir, prendre un sac à dos et partir avec. À chaque souffrance, il vient, il prend le sac à dos et il part avec. Il prend, il part, il prend, il part. À la dernière souffrance, il prend le dernier sac, il s'en va et je me sens libre, libérée. Un poids qui part de mes épaules, je me sens libre. Et je pensais que c'était fini, mais je vois Jésus revenir. Et quand tu reviens, il revient avec une couronne toute légère. Et il me dit, Daria, cette couronne, je l'ai faite avec tes souffrances. Cette couronne, elle avait 6 branches, parce que j'ai 6 années de souffrance dans ma vie. Et il me dit, tu vois, elle a été faite avec tes souffrances. Ni tu vas continuer à porter les marques de tes souffrances, mais pas comme un sac à dos lourd qui t'écrase et qui t'empêche d'avancer. Mais tu vas porter les marques de tes souffrances pour me glorifier dans ta vie. C'est juste après ça que j'ai décidé d'écrire le livre. Il est là pour glorifier notre Dieu, notre Père, qui m'a sauvé de chacune de mes souffrances. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est pas que pour moi. En fait, Dieu souhaite donner une couronne à chacun d'entre vous. Dieu souhaite transformer chacune de vos souffrances en une couronne belle et légère pour que vous ne puissiez plus marcher dans la vie avec un sac à dos lourd, mais avec une couronne légère qui honore et qui glorifie Dieu. Tout comme moi, je porte aujourd'hui la couronne que Jésus m'a donnée. Je la porte aujourd'hui fièrement et je glorifie Dieu avec fierté pour Dieu. Je le glorifie parce qu'il m'a transformée, il m'a libérée. Je suis une femme libre aujourd'hui devant vous. Et c'est un miracle. Mais c'est passé par le brisement. J'aimerais qu'on arrive au temps de l'appel maintenant. Il y aura un temps d'appel et je vais demander à l'équipe, s'il y a une équipe de prière, de venir. s'il y a des responsables qui peuvent venir aussi prier. Vous savez, je pense que les messages, les prédications, les témoignages, ils sont là pour avoir une réaction aussi. Et comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est un rendez-vous que Dieu te donne. Dieu te donne un rendez-vous aujourd'hui et il te donne la possibilité de répondre maintenant à cet appel. Alors pendant ce temps de louange, ce temps d'adoration, tu auras la possibilité, si tu es là aujourd'hui, fermons les yeux ensemble, comme ça vraiment tu te concentres et tu te mets devant Dieu. On peut se lever ensemble.